c'est pas grave. Vous avez entendu donc un jingle confirmant l'existence d'émissions de Comaguerre depuis un certain nombre d'années, à la même heure, 15h le mardi, toutes les semaines, et ça continue toujours avec aujourd'hui donc l'assistance très précieuse de Roselyne, que je remercie, qui est sous son casque, juste en face de moi. Voilà, c'est bon, ça passe bien. Bien. Donc, la semaine dernière, donc, on a fait, sans le vouloir, une émission spéciale, puisque, en fait, il avait été prévu donc, de donner la parole à Annie Lacroix-Ry, l'historienne que vous connaissez désormais, pour faire un petit, plus qu'une introduction, mais passer une dizaine de minutes ou un peu plus sur la question qui nous préoccupait à ce moment-là. Et puis, les difficultés de problèmes de téléphone font que j'ai dû faire une introduction improvisée d'une vingtaine de minutes, qu'ensuite on a réussi à joindre Annie Lacroix-Ry au téléphone, et que finalement elle a développé son sujet sur quelle était, j'insiste, parce que c'est très, très important pour la compréhension de l'histoire, quelle était la capacité des quatre ministres communistes qui avaient été installés au gouvernement par le général de Gaulle, en application du programme du Conseil national de résistance, qui savaient quelle était la capacité, et surtout leur durée de vie en tant que installés au gouvernement par le général de Gaulle, en application du programme du Conseil national de résistance, qui savaient quelle était la capacité, et surtout leur durée de vie en tant que ministre de la République, qui était, ils le savaient, très très courte. La pression venait de partout, donc de la droite française qui se réveillait de sa longue collaboration, évidemment des États-Unis d'Amérique, sujet sur lequel on reviendra abondamment avec Annie Lacroix-Ry quand on présentera son prochain livre. Et donc ils savaient qu'ils devaient faire énormément de choses, un énorme travail pour effectuer le programme du Conseil national de la résistance avant d'être mis à la porte sans classe, j'allais dire, comme un ordre venu directement de Washington, exécuté donc par M. Paul Ramadier, président du Conseil radical, qui exécutait l'ordre, c'est tout, reçu de Washington, puisque Washington, on est au printemps 1947, avait donné l'ordre à la République française d'exclure ses quatre ministres, de la même façon qu'avait été donné l'ordre, le même ordre avait été donné au gouvernement italien, à peu près à quelques semaines près. C'est-à-dire tout ça correspondait à un plan très très bien établi de la part des États-Unis, qui ne voulaient pas que les deux pays de l'Europe libérés, ayant fini la Seconde Guerre mondiale, aient à leur tête des communistes, et donc il s'agissait de les mettre à la porte. J'allais pas dire manu militari, mais c'était peut-être pas exclu. Bon, ils sont partis, ils ont essayé de continuer leur combat dans l'opposition politique, ils l'ont fait un certain temps, mais il était exclu qu'ils accèdent à nouveau au pouvoir. Et je rappelle, puisque je reste un tout petit peu sur le sujet, que quand, en mai 1980, après avoir gagné les élections présidentielles, François Mitterrand décide, là aussi, puisqu'il a quand même bénéficié très largement du vote communiste pour accéder à l'Élysée, il décide là à nouveau de reprendre des ministres communistes dans son gouvernement, donc dans le gouvernement de Pierre Mauroy, qui est constitué tout de suite après l'élection présidentielle de mai 81. Il est obligé, parce qu'il sait quelles sont les obligations d'un président de la République française, la République membre de l'Alliance Atlantique, membre de l'OTAN, etc. Il est obligé d'informer l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Je signale pour la petite histoire, parce que la géographie n'est pas tout à fait gratuite, le bâtiment officiel le plus proche de l'Élysée, c'est l'ambassade des États-Unis en France. Il y a juste un jardin à traverser. Bon, donc Mitterrand va dire, mais vous savez, je ne leur donne que des postes secondaires. Ne craignez rien. Et effectivement, c'est ce qu'il fera. Et puis, ça durera le temps que ça durera, c'est-à-dire à peine plus qu'en 1946-47, puisque du passage au gouvernement, Fabius passe à la tête du gouvernement après le départ de Mauroy, et donc c'est Fabius qui mettra en place un gouvernement sans ministre communiste. Donc là encore, apparition très très succincte de quatre ministres secondaires. Je dis pas ça pour les personnes concernées, mais considérées politiquement comme secondaires, Hors de question de mettre un ministre communiste aux affaires étrangères, hors de question de mettre un ministre communiste à la défense, hors de question de mettre un ministre communiste aux finances, et donc effectivement on leur donne des postes plus techniques, genre l'équipement, les transports, la formation professionnelle, voilà, ça c'est très bien. Et il y aura une dernière tentative qui sera celle donc organisée par Lionel Jospin dans son gouvernement tricolore, c'est-à-dire communiste, force de gauche, écologiste et socialiste, qui ressemble assez dans sa composition et dans ses dosages à l'actuel gouvernement de la République fédérale allemande, qui là encore mettra quelques communistes de service pour occuper aussi des postes secondaires. On est dans une logique qui ne s'est pas démentie parce qu'elle ne peut pas se démentir, en ce sens qu'on est dans le cadre d'une alliance extrêmement rigide qui est dominée par un des pays, et ce pays-là n'a pas changé de position là-dessus à aucun moment. Et donc, il compose, il admet que de temps en temps, pour des raisons électorales, il faut passer du centre droit au centre gauche et qu'une petite dose d'électeurs de gauche doit être respectée plus que dans la situation précédente. Mais ça ne va pas au-delà, ce n'est pas possible que ça vaille au-delà, puisque c'est tout à fait opposé à l'idéologie des États-Unis, et c'est tout à fait opposé au fait qu'ils dominent le monde occidental, et donc c'est eux qui dictent la composition des gouvernements. Habitons-nous à cette idée, c'est-à-dire que c'est pas... Évidemment, il y a les résultats, un parti appelle à voter pour tel ou tel président, etc. Ça peut jouer, c'est-à-dire il y a une espèce de renvoi d'ascenseur, on dirait, c'est-à-dire le Parti communiste appelant à voter Mitterrand en 81, effectivement, apporte quand même 20% et quelques des voix, c'est beaucoup, et c'est décisif pour que Mitterrand arrive juste au-dessus de la barre de 50%, pas beaucoup au-dessus, mais il faut juste donner la monnaie de la pièce, et puis on oublie très très vite, parce que de toute façon, le patron n'est pas content, ça ne lui convient pas. Alors, il comprend qu'effectivement, il y a des formes à respecter, qu'on ne peut pas trop quand même insulter l'électeur communiste qui a permis de mettre Mitterrand au pouvoir, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il ne faut pas que ça ait des conséquences concrètes dans la politique générale de la France. Par rapport à l'Union européenne et par rapport à des tas d'autres sujets. Voilà. Ça, c'était à rappeler. Et puis, pour rappeler aussi que la semaine dernière, donc, du fait de cette émission improvisée sur les débuts de la 4e République, on n'a pas du tout pu parler de l'actualité. Alors, l'activité est foisonnante comme elle l'est d'habitude. Alors, je vais commencer par un sujet qui est revenu à la surface et qui est assez intéressant dans le cadre des rapports internationaux globaux, qui concerne la question du Kosovo. Alors le Kosovo, je le resitue, c'est un petit morceau de la République de Serbie qui a donné lieu, autour duquel s'est organisée la guerre contre la Yougoslavie. Qu'est-ce que c'est que la guerre contre la Yougoslavie ? Bon, il faut l'inscrire dans cette période très très particulière, après 1991, où l'URSS vient de disparaître. L'URSS a disparu, elle s'est découpée en un certain nombre de républiques socialistes, ex-socialistes ou socialistes encore, et en fait la Fédération de Russie reste le gros morceau, encore 17 millions de kilomètres carrés sur 22, mais le cas de la Yougoslavie reste un cas tout à fait à part. La Yougoslavie s'est signalée, après la Deuxième Guerre mondiale, comme ayant d'une part une particularité, s'être libérée à peu près toute seule de l'occupation nazie, avec ses propres forces, et avoir constitué une économie de type socialiste qui ne voulait pas être inféodée et dépendre de l'URSS. Donc ça, c'est la politique de Tito. Tito dit qu'il y a une rupture qui est connue dans l'histoire, une rupture entre la Yougoslavie et l'URSS de Staline et de la suite. Donc la Yougoslavie part sur une trajectoire d'une économie socialiste un peu particulière, dans cette zone des Balkans, elle aussi particulière et tout. Et ça va durer très longtemps. Alors, je ne rentre pas dans la description détaillée du régime yougoslave, mais c'est un régime socialiste d'un type un peu particulier, sur un plus petit pays, bien entendu, que l'URSS et la Russie, et qui va se situer, ce petit pays va être très très particulier, puisque c'est un pays européen qui va être à l'origine du mouvement des non-alignés, et qui va être une des parties prenantes du mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés, donc, c'est la conférence de Bandung qui est connue, l'Indonésie, donc l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, et la Yougoslavie. C'était, C'est-à-dire on a un mouvement qui vient des profondeurs des pays colonisés, je pense à l'Indonésie, je pense à l'Égypte, etc., auquel ce petit pays d'Europe très particulier prend part et dit nous sommes non alignés, c'est-à-dire que la rupture avec l'URSS, on l'assume, on n'est pas les clients, on n'est pas les sous-traitants de l'URSS, on n'est pas non plus des membres de l'URSS, on ne veut pas être dans l'OTAN, on veut être nous-mêmes. Et on est nous-mêmes avec les autres qui veulent être aussi autonomes, non-alignement, le mot dit bien ce qu'il veut dire. Hein. Et donc la trajectoire de Tito à la tête de Yougoslavie et de ce pays sera de dire oui, on est des non-alignés, principalement. On est sur le continent européen, ça, les cartes sont limpides là-dessus, mais c'est tout. C'est tout. Par ailleurs, on a plutôt, vu notre niveau de développement, on a plutôt une attitude de pays du tiers-monde, non aligné, qui ne veut être ni dans le camp des États-Unis. On est, il est hors de question que la Yougoslavie adhère au pacte atlantique, il est hors de question qu'on soit dans le Comecon, donc la Yougoslavie ne sera pas dans le Comecon, elle ne sera pas dans le pacte de Varsovie, elle est dans le tiers-monde. Donc on a un petit bout de l'Europe, qui est incontestablement en Europe, qui est dans le tiers-monde et qui se réclame du tiers-monde. Hein. Alors, il ne dit pas on est là parce qu'on est pauvre, mais on ne veut pas être dépendant des maîtres du jeu qui sont d'un côté à l'époque, on est en pleine guerre froide, l'URSS et les États-Unis. Ça, c'est ce que la trajectoire propre. Bon, et puis, évidemment, Tito meurt, il a de l'âge, et on en arrive à la période où l'URSS disparaît de la circulation, ou disparaît des cartes, donc en 91. Et à ce moment-là, ce qu'il faut bien voir, c'est que le souci de la présidence de Bush et de ses successeurs, donc de Clinton en particulier, c'est de dire il faut aussi régler le cas de la Yougoslavie. La Yougoslavie, c'est un morceau d'Europe qui n'est pas aligné, mais c'est pas possible qu'il reste non aligné, parce que nous, on veut toute l'Europe, et ils vont le prouver en absorbant petit à petit tous les pays du pacte de Varsovie pour aller jusqu'à la limite actuelle qui est l'Ukraine, ça on en a déjà parlé. Et donc ils vont faire tout ce qu'il faut pour que cette Yougoslavie tombe dans leur escarcelle. Je parle en termes de larcin, si vous voulez. Alors c'est pas un larcin. Alors comment faire pour que la Yougoslavie tombe dans l'escarcelle ? Eh bien c'est assez facile, c'est une technique classique de diviser pour régner, ça consiste à dire regardons ce que c'est que cette Yougoslavie, c'est un pays compliqué, c'est le pays des Slaves du Sud, hein, c'est ça l'origine du nom, et en fait c'est composé quand même de bouées de morceaux que Tito a réussi à regrouper dans cette fédération yougoslave, mais il y a quand même des particularités du genre du fait qu'il y a des Croates et des Serbes, alors qu'ils parlent la même langue, ils parlent le serbo-croate. Hein, mais les uns l'écrivent en caractère latin, les Croates, et les autres l'écrivent en caractère cyrillique. Bon. Et puis les uns sont catholiques, les autres sont orthodoxes. Bon. Et puis vous avez aussi, au milieu, vous avez la Bosnie-Herzégovine, qui est un morceau assez compliqué, où il y a un peu de tout, où il y a des Serbes, des Croates, des musulmans. Alors qu'est-ce que c'est qu'un musulman dans la Yougoslavie de Tito ? C'est un citoyen yougoslave, un slave donc, qui s'est converti à l'islam au moment de l'occupation de la Yougoslavie par l'Empire ottoman. C'est tout. C'est ça un musulman. Quand vous aviez des cartes d'identité de l'époque de la République fédérale yougoslave, vous aviez marqué la nationalité et vous marquez M majuscule musulman. Ça voulait dire simplement que vous étiez quelqu'un du pays, vous n'étiez pas arrivé de la Mecque ou de d'ailleurs, vous étiez un monsieur qui était né là, dont toutes les racines étaient là, mais qui avait adopté l'islam, qui s'était converti pour différentes raisons. Donc voilà. Alors, cette Bosnie-Herzégovine était un mélange compliqué de Croates, de Serbes, de musulmans dans le sens où je l'entends, et il y avait des facteurs de division évidents. Et puis il y avait des minorités albanaises, l'Albanie, juste dans le coin en bas à droite de la Yougoslavie, qui elle venait d'un parcours complètement différent, puisque pays d'abord colonie italienne, passé au communisme anti-soviétique du côté des Chinois en tant que particularité tout à fait extraordinaire pour un pays si petit de 2 millions d'habitants. Et donc il y avait des Albanais aussi dans la Yougoslavie. Il y avait donc un espèce de cocktail religieux, linguistique, ethnique, dans cette Yougoslavie. Et que fait la puissance dominante impérialiste ? Elle essaye de jouer et d'attiser les divisions. Ce qui fut fait. Et alors, rapidement, et j'allais dire quasiment de main de maître, c'est-à-dire que l'éclatement de la fédération yougoslave organisée par les États-Unis et par l'Allemagne fédérale, qui a été son complice, a été j'allais dire, un chef-d'œuvre en tant que manœuvre néocoloniale d'éclatement d'un pays, c'est une réussite extraordinaire, enfin, vu du point de vue de celui qui organise l'éclatement. Ça veut dire qu'on arrive très vite au fait que les Croates se mettent à se battre avec les Serbes, hein, donc tout en ayant la même langue, ils se comprennent très bien, mais ils se tirent dessus, parce que d'un côté, il y a des catholiques qui sont soutenus par le pape et qui ont dans leur passé de la Deuxième Guerre mondiale des souvenirs de pro-nazis affichés, c'est-à-dire qu'il y a eu des camps d'extermination en Croatie organisés sur le mode nazi, organisés par des Croates, il faut s'en souvenir. Et les Serbes de l'autre côté. Au point que ça commence d'une façon très simple, c'est-à-dire qu'il y a sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la Croatie plusieurs centaines de milliers d'habitants serbes qui vont être, s'ils résistent, tués, ou s'ils ne résistent pas, ils prendront leurs valises et ils s'en iront en Serbie. Donc il y a un mouvement de 300-400 000 personnes qui est organisé en quelques semaines pour chasser tous les Serbes de Croatie. Alors qu'ils se comprenaient, ils parlaient la même langue depuis, ils étaient là depuis des décennies. Bon. Ça se fait assez vite, et donc les Serbes s'en vont, et la Croatie proclame très vite son indépendance. Elle le fait avec le soutien de l'Allemagne, le soutien financier, et puis arrive, il y a une espèce de reflux de son passé nazi qui était assumé, qui était connu, c'est-à-dire le plaisir de s'en prendre à des socialistes communistes, genre serbes, etc. Il reste un deuxième morceau qui est le morceau de la Bosnie-Herzégovine. Alors le mélange épouvantable avec toutes ces trois nationalités mélangées sur le même territoire. Et là, effectivement, il va y avoir une intervention occidentale d'un autre type qui est de faire battre les musulmans contre les autres. Alors là, on aura Ben Laden sur place lui-même, des combattants, de l'armement qui arrive, tout ça fonctionne très bien, on s'entretue autour de Sarajevo, etc. Et tout ça finit très très mal, tout ça du point de vue humain, et finit dans un camp militaire des États-Unis, où les États-Unis convoquent les différentes parties en présence. Donc il y a des Serbes, il y a des Croates, il y a des musulmans, toujours dans l'acception que je vous ai décrite. Et donc dans le camp de Dayton, c'est aux États-Unis, on enferme des délégués de ces trois groupements et on leur dit: vous ne sortirez de là que si vous avez conclu à la fondation d'un État qui s'appellera la Bosnie-Herzégovine. Bon, comme ils n'ont pas les moyens de résister, ils finissent par accoucher d'un État qui est un État qui n'est toujours pas viable, qui ne fonctionne pas ou très très mal, où il y a alors d'une part une fédération croato-musulmane, donc on oblige les Croates et les musulmans, toujours dans cette acception, à vivre ensemble, et donc une république serbe de la Bosnie-Herzégovine, qui est la plus importante d'ailleurs numériquement, qui sont confinés dans un État qui leur a été imposé de l'extérieur par la violence. Enfin, de violence diplomatique, certes, mais après qu'ils se soient beaucoup entretués. C'est-à-dire, l'argument des États-Unis a été dit: arrêtez de vous entretuer, fabriquez-nous l'État qu'on vous a donné l'ordre de fabriquer, et on arrête. Bon. Alors, c'est exactement ce qui se passe. Et les États-Unis, très hypocritement, comme à leur habitude, disent: bon, maintenant, c'est l'Europe qui sera chargée de surveiller cette espèce de bouillon explosif que nous avons mis en place. Effectivement, l'Europe se charge très gentiment, à la demande des États-Unis, d'essayer de faire naviguer tout ça à vue de nez pour que les Croates, les Serbes, les musulmans de la Bosnie-Herzégovine ne passent pas leur temps à s'entretuer. Alors, de ce point de vue-là, ça a à peu près marché. Du point de vue de la réussite du développement de ce pays, ça n'a pas du tout marché, puisque tous les habitants de ce pays-là qui ont pu partir sont partis, puisqu'il ne s'est passé rien, qu'on risquait toujours d'avoir une répercussion des crimes commis les uns contre les autres pendant les 5 années précédentes. Et donc, c'est un pays sans intérêt qui est en train de crever sur pied. Bon. Voilà, grande réussite aussi de la politique occidentale. Ne restait, et j'en arrive au sujet du jour, ne restait que la partie serbe. Et là, il y avait encore un autre abcès utilisable. Une fois qu'on avait, alors, on avait séparé les Serbes de Serbie, qui restent toujours en Serbie telle qu'elle est aujourd'hui, et puis les Serbes donc de Bosnie-Herzégovine, qu'il faut surtout pas, qui sont d'une certaine façon à qui on interdit de rejoindre la Serbie. Alors qu'ils commencent à se dire: maintenant, nous, on est Serbes, on aimerait bien rentrer en Serbie plutôt que de rester dans cet État qui ne fonctionne pas. Mais on ne veut surtout pas qu'ils le fassent. Encore qu'ils sont en train de commencer à le dire de plus en plus fort. Mais qu'est-ce qu'on fait là au milieu de cette entité qui ne fonctionne pas, qui est contrôlée par l'Union européenne? Il y a une espèce de gouverneur, il faut le savoir. Il y a un gouverneur européen à Sarajevo qui gouverne un pays qui ne fonctionne pas. Hein. Donc il est là parce que les États-Unis lui ont dit, surveille-moi tout ça et que ça reste calme. En gros, c'est ça. Bon, c'est assez monstrueux de fabriquer un État dont on sait qu'il ne sert à rien, qu'il est là pour diviser et qui ne donne aucun espoir, aucune perspective à tous ses citoyens. Si ce n'est de celle de s'entretuer le lendemain avec le voisin parce qu'à nouveau, on s'est refâché entre les uns et les autres. Bon, c'est horrible. C'est horrible. Mais évidemment, on n'en parle pas parce que l'Union européenne a beaucoup trempé là-dedans, en particulier l'Allemagne. Je me rappelle à ce propos, il faut le dire quand même, qu'à un moment donné, on vous a beaucoup... si vous suiviez l'actualité à l'époque, on parlait... Des snipers qui tiraient sur Sarajevo les jours de marché. Hein, donc, sniper, c'est un monsieur qui est caché dans une colline autour de la ville et qui, avec un fusil à lunettes, peut tuer un habitant qui passe au marché. Bon. Et à un moment donné, quelqu'un dit à un conseiller de Mitterrand, qui l'a raconté après, dit à Mitterrand, bon, il paraît qu'apparemment on dit que c'est les musulmans qui tirent sur des Serbes, sur des autres, mais c'est pas vrai. En fait, ils se tuent entre eux. Hein, ils se tuent entre eux. Et Mitterrand a répondu, oh, si ça peut faire avancer les affaires. Alors, on en était là. On en était là de l'état de mépris de cette population. La Yougoslavie, c'était quand même 25 millions de personnes. Hein. Bon. Alors, bon. Alors, j'en arrive à ma dernière période, donc la Serbie. La Serbie qui reste un petit État qui a perdu une partie de ses Serbes qu'on a mis de l'autre côté de la frontière, et puis à qui on a... on trouve qu'il y a une partie de la Serbie qui, historiquement, c'est vrai, est occupée par une minorité albanaise. C'est le cas de la province du Kosovo. Il y a une autre minorité que je signale aussi, il y a une minorité hongroise au nord de la Serbie, au contact de la Hongrie. Cette minorité albanaise, elle est instrumentalisée par les États-Unis pour compliquer la vie de la Serbie, puisque la Serbie, à l'époque, est gouvernée par un monsieur Milosevic, à qui on a imposé que son pays soit divisé sous ses yeux, à qui on a fait croire, enfin non, on a plutôt voulu faire croire qu'il était la faute de tout, alors qu'il était la faute de rien du tout, il essayait de sauver un petit peu son pays. Bon. Et donc on dit, c'est pas bien, on va lui mettre du désordre chez lui, et on va mettre là en place un terrorisme kosovar, donc un terrorisme albanais, qui va dire, ah mais nous on ne veut pas être avec les Serbes nous veulent du mal, ils sont orthodoxes, nous on est musulmans, etc. Qu'est-ce que c'est que ces histoires et tout. Et il commence une activité terroriste sur le territoire de la République de Serbie, dans la province du Kosovo. Bon. Voilà. Au point qu'à un moment, effectivement, dans cette province qui est majoritairement peuplée d'albanophones, qui ne sont pas albanais, l'Albanie c'est à part, c'est de l'autre côté, ces albanophones prennent le pouvoir par la violence. C'est-à-dire à coups de plasticage, de tirs sur des cars, etc. Et il ne reste dans ce petit Kosovo qu'une petite partie au nord, qui est de la partie frontalière avec la Serbie actuelle. Enfin, c'est dans la Serbie, mais c'est à la frontière de la Serbie telle qu'elle fonctionne concrètement, où il y a encore des Serbes. C'est de ça que je vais vous parler pour revenir dans l'actualité. Alors, cette petite minorité serbe qui est donc dans un petit coin de la province du Kosovo, ben, elle vit comme elle peut parce qu'elle essaye d'abord de rester entre elles dans son petit bout de territoire, et puis elle sait que théoriquement, il y a toujours cette fameuse force d'interposition militaire européenne qui est là pour la protéger, enfin pour éviter au moins qu'on les passe tous par les armes. Bon. Ça s'appelle la KFOR, dans laquelle il y a des soldats français, des soldats allemands, etc., etc. Bon. Et puis, c'était trop beau pour que ça dure. C'est-à-dire que le conflit en Ukraine a fait craindre aux États-Unis, donc à l'Union européenne, que les Serbes disent cette comédie-là de monter les uns contre les autres, etc., de fractionner un pays, etc., on la connaît, on a déjà donné, on nous a pris le Kosovo, enfin les Albanais ont pris le pouvoir au Kosovo. Alors les Albanais, les albanophones plutôt, je précise qu'ils sont au début classés comme terroristes par le département d'État et par la CIA, et puis le jour où ils ont vraiment poussé les Serbes sur la frontière et qu'ils ont pris tout l'appareil politique du pouvoir à Pristina, ça y est, ils sont plus terroristes, on les déclasse, ça devient des gens représentatifs et présentables. Bon, alors il y en a qui auront des ennuis avec la justice internationale, il y en a qui seront pris pour des trafics d'organes humains, traite des blanches, etc. Enfin tout, ils sont des voyous caractérisés, mais ils sont à la tête de ce morceau du Kosovo. Ce morceau du Kosovo formellement pour les Nations Unies, et il y a des résolutions de l'Assemblée Générale qui sont tout à fait claires là-dessus, fait partie de la Serbie. Il n'y a aucune décision de dire que ce Kosovo, province de la Serbie, ne fait pas partie de la Serbie. Mais poussé par les États-Unis, évidemment, tout est fait pour que cette province fasse sécession. Tout est fait surtout parce que, profitant de ce petit pays qu'ils ont essayé à mettre en place et avec des gens qui sont tous des voyous à leur tête, il est facile de leur dire « Bon, on vous a laissé faire votre business, vous pouvez faire votre trafic d'armes, votre trafic des blanches, tout ça et tout, votre trafic d'organes, on s'en fout, hein, mais nous, on veut une base militaire énorme au Kosovo. » Ce qui fut fait. La plus grande base militaire états-unienne sur le continent européen, elle est au Kosovo. Retenez bien cette idée toute simple. Bon. Et ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que, d'une part, dans le cadre de pression extrême exercée sur la Serbie pour qu'elle rentre dans l'Union européenne, ce qui ferait que, définitivement, il n'y aurait plus d'exception yougoslave et de particularité yougoslave, la Croatie est rentrée dans l'Union européenne, la Bosnie-Herzégovine, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais enfin, n'en parlons plus, le Monténégro a fait sécession de la Serbie, il est rentré dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Bon, donc, il ne restait plus qu'à faire sauter le dernier obstacle au passage global de l'ex-Yougoslavie dans le camp états-unien occidental, c'était la Serbie. La Serbie était tentée. Et donc, pour faire pression, il y a eu des manœuvres militaires qui ont été organisées par l'OTAN sur le territoire du Kosovo, qui n'est reconnu internationalement par personne, enfin par des États, mais pas par l'ONU. Et puis, il y a eu une organisation d'élections municipales dans les quelques petites villes occupées par des Serbes dans le nord du Kosovo. À ces élections, les Serbes ont décidé de ne pas se présenter en disant « De toute façon, on se moque de nous. Quand on va au gouvernement de notre province, qui est la province du Kosovo, personne ne nous écoute, il n'y a que des albanophones, on ne nous parle même pas et on nous met à la porte. » Donc, ils ont décidé de ne pas se présenter. Ce qui a permis au fameux gouvernement albanophone de Pristina de prendre les mairies avec 4 électeurs qu'ils avaient sur place. Voilà. Et c'est de là que vient le conflit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation de la minorité serbe du Kosovo est assurée par des descendants de terroristes albanophones. Alors effectivement, ça coince un petit peu et ça commence à réagir. D'abord, les Serbes du Kosovo réagissent et puis même en Serbie, on commence à dire que ça fait beaucoup puisque, au fond, le Kosovo, juridiquement, fait toujours partie de la Serbie. Même s'il y a un énorme camp militaire états-unien et même s'il y a des voyous à la tête de cet État. Bon, des voyous, alors avec des carnets, enfin, vraiment, c'est très très chargé, quoi. C'est pas des enfants de cœur, c'est pas des braquages à la main dans la rue, c'est vraiment du grand trafic international bien organisé, avec des complicités partout. Je dis drogue, traite des blanches et trafic d'organes. Hein. Donc voilà. Et un Serbe qui disparaît, enfin, qui est tué dans ces combats-là, il est sûr que ses organes seront transplantés dans un autre pays de l'Union européenne ou des États-Unis. Voilà ce que c'est que le destin d'un Serbe au Kosovo, ou de ses restes. Donc je voulais expliquer ce contexte-là pour bien montrer que la Serbie est soumise à des pressions énormes et que la population serbe concernée commence à dire que ça commence à bien faire. Et donc, de fait, le gouvernement de Belgrade va être obligé de tenir compte de cette réalité pour dire que tout ce que veulent faire les albanophones de Pristina, tout ce que veulent faire les États-Unis sur ce territoire-là, c'est-à-dire continuer à avoir une énorme base militaire et à faire exploser ce qui reste de ce pays, n'est pas sûr de se réaliser. Tout ça dans un contexte où, effectivement, l'idée c'était de dire, il faut qu'il n'y ait plus aucune trace de dissidence, le non-alignement, la Yougoslavie, tout ça c'est fini, on n'en veut plus, on veut 3-4 petites principautés qu'on maîtrise totalement, la Croatie c'est fait, elle est dans l'OTAN, le Monténégro c'est fait, il est dans l'OTAN, l'Albanie c'est fait, parallèlement, elle est dans l'OTAN, la Macédoine du Nord, elle est dans l'OTAN. Bon, qu'est-ce que c'est que cette Serbie, là, cette espèce de corps étranger qui ne tombe pas dans notre escarcelle? C'est ça le problème du rapt. Bon, on en est là. Je vous en reparlerai, mais je voulais situer le cadre général de cette affaire kosovare. Et sans parler des souffrances et tout, et puis sans parler des vieilles habitudes, en particulier croates, de camps d'extermination, enfin des méthodes très très discutables. Bien. Ensuite, puisque j'étais à parler d'élections discutables, non, c'est pas discutable, mais des résultats qui sont intervenus dans la quinzaine écoulée, puisqu'on n'en a pas parlé à l'antenne, un mot sur les élections en Grèce. Alors les élections en Grèce ont donné un résultat qui n'est pas très surprenant, c'est-à-dire que la droite au pouvoir est en tête. Elle est suivie par Syriza, le fameux Syriza de M. Tsipras, qui n'a pas brillé, mais comment aurait-il pu briller ? Alors, bien sûr, on regarde ça de loin, mais quand vous vous souvenez que M. Tsipras, au gouvernement, donc majoritaire à l'Assemblée, s'est permis de demander à la population grecque de préciser sa position par référendum pour savoir si le gouvernement grec devait accepter les propositions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne pour réduire la dette grecque, que la population majoritairement a répondu qu'il ne fallait pas accepter ces propositions. Elle donc a refusé le plan d'austérité de ce qu'on appelait la Troïka à l'époque. Et il se trouve que le lendemain matin du jour où la population refuse d'accepter et de accepter ce protocole donc de réduction de la dette, M. Tsipras va à Bruxelles et signe. C'est-à-dire que quand on a commis ça une fois dans sa vie politique, on devrait rentrer dans son trou et ne plus jamais se montrer si on a un minimum de dignité. Eh bien non, il ne s'est rien passé. M. Syriza continue. Alors, il y a quand même des gens qui s'en souviennent parce qu'ils pensaient briller. Ils imaginaient même qu'ils allaient remplacer les démocrates à la tête du pays. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas et ils n'auront pas assez de voix pour y arriver. Mais c'est très, très intéressant à rappeler qu'on peut se moquer de la population d'un peuple entier qui vote à sa majorité sur un texte et dire exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est le référendum, ça sert à rien, vous avez voté, je m'en fiche, peu importe ce que vous avez voté, je fais exactement le contraire de ce que vous m'avez dit. Ça s'appelle, c'est plus de la souveraineté populaire, c'est de mépris du peuple à un niveau pas possible. Bon, ben, apparemment, M. Tsipras a très bien survécu à cette période honteuse. Mais son parti n'a probablement plus d'avenir politique, même s'il réunit 20% des suffrages. Alors ce qui va se passer, c'est pas du tout acquis, mais il se trouve que la situation constitutionnelle grecque fait qu'il y aura un deuxième tour, mais un deuxième tour qui sera organisé dans des conditions différentes du premier. C'est-à-dire qu'il y aura alors dans la constitution grecque telle qu'elle est aujourd'hui, on est assez proche de la proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale, c'est le parti qui a eu 20% des voix à 20% des députés. Je fais ça, mais c'est en gros, c'est ça l'idée. Et ce qui va se passer, c'est qu'entre le premier et le deuxième tour, ça c'était prévu. Bon, donc s'il n'y avait pas eu un résultat définitif au premier tour, ce qui a été le cas, on passe à la procédure nouvelle, une procédure qui donne une prime au gagnant. Alors ça existe dans beaucoup de constitutions, c'est-à-dire que le parti arrivé en tête, même s'il n'a que 30% des voix, est assuré d'avoir la majorité au Parlement. Il a une prime au gagnant. Bon. Et donc, ça explique, les constitutionnalistes disent, ça rend la viabilité du vote. C'est-à-dire, plutôt que d'arriver à une situation où il y a 5 partis, chacun à 20%, et personne ne peut gouverner, il n'y a pas d'alliance possible, bon, on dit, celui qui est en tête a une prime, et c'est lui qui devra gouverner, même s'il a eu que 30 ou 35% des voix. Bon. C'est ce qui va se passer au deuxième tour. Donc, effectivement, très probablement, vu le résultat du premier tour, c'est la démocratie, donc la droite grecque classique, qui va arriver au gouvernement la fin du mois prochain. Rien de plus là-dessus, mais je voulais rappeler quand même l'outrage au peuple grec effectué par M. Tsipras. Au point que son fameux adjoint, M. Varoufakis, là, qui était ministre de l'économie, a quand même compris que ce n'était pas très très propre ce qui s'était passé et a constitué lui-même un petit parti, mais qui n'a pas brillé aux élections. Le seul élément un peu nouveau, c'est que le Parti communiste grec, qui est très très clair sur tout ce qui s'est passé et que j'ai décrit, a lui beaucoup augmenté sa représentation au Parlement. Donc il y a une opposition possible sur des bases plus saines que les bases de Syriza. La deuxième élection intéressante, elle touche aussi l'Europe, mais c'est l'Espagne cette fois-ci. C'est un résultat, alors c'est aux élections régionales qui se sont passées en Espagne, un résultat qui est catastrophique pour la coalition au pouvoir. La coalition au pouvoir, je rappelle, c'est le Parti socialiste et Podemos, et qui en fait a été battu très très largement par la droite espagnole, le Parti populaire, dans beaucoup beaucoup d'endroits. Enfin, donc c'est une catastrophe électorale qui apparemment n'inquiète pas beaucoup le Premier ministre espagnol actuel, parce que lui, il est en train de faire sa reconversion, puisque on chuchote, alors je chuchote puisque je ne suis pas le seul à le faire, on chuchote que monsieur Sanchez deviendrait le remplacement de monsieur Stoltenberg comme secrétaire général de l'OTAN. Donc effectivement, alors l'Espagne est un bon élève de l'OTAN, il n'y a pas de souci, il y a des grandes bases américaines dans le sud du pays, etc. Et donc effectivement, monsieur Sanchez est assez content, je pense, de cette promotion future, et puis ça lui donnera un poste important et une carrière. Il fera suite à monsieur Solana, qui a déjà été un Espagnol, secrétaire général de l'OTAN. Et pour les États-Unis, c'est un bon placement, puisque en fait, c'est un placement astucieux, puisque on fait croire aux populations européennes que c'est un monsieur de gauche, qui n'est peut-être pas, qui s'occupe de la stratégie américaine sur le continent européen. C'est assez conforme à la vision du monde par les démocrates de Biden. C'est-à-dire la gauche sert en fait de paravent aux politiques militaires des démocrates, qui peuvent être extrêmement violentes, puisque je rappelle que la guerre de Yougoslavie, j'insiste là-dessus, elle a été menée majoritairement par M. Bill Clinton. C'est lui qui a orchestré tout ça, avec une grosse participation donc de monsieur Helmut Kohl, le chancelier de l'époque. Chronique électorale, je crois que je vais m'arrêter là. Si je vais dire deux mots, car il se passe quand même quelque chose d'assez étrange au Venezuela. Alors le Venezuela, c'est un pays qu'on a soutenu dans tous les efforts qu'il fait pour d'abord résister à l'embargo, résister aux sanctions, etc. Essayer de se gouverner lui-même sans être gouverné par des faux présidents du genre de monsieur Guaido qu'on lui a parachuté, fabriqué aux États-Unis et bien fabriqué aussi en Union européenne. Et il se passe une chose étonnante, parce qu'il y a au Venezuela donc un parti communiste vénézuélien qui doit gêner le gouvernement actuel. Alors je rappelle que la majorité parlementaire du président Maduro au Venezuela, c'est le Parti Socialiste Unifié du Venezuela, donc qui est une création de Hugo Chavez, qui est le parti le majoritaire aujourd'hui au Venezuela, mais que ce parti est un peu un parti attrape-tout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens sincèrement socialistes et de gauche, et puis il y a des gens opportunistes qui disent « Bon, écoute, c'est le parti au pouvoir, donc on sera lié au parti au pouvoir, et tout le monde peut y trouver sa place. » Ce qui crée une espèce de danger qui se concrétise, puisque il y a dans ce parti socialiste unifié du Venezuela des militants qui ont essayé de constituer un deuxième parti communiste pour faire dissoudre le premier, le vrai. Et donc on est dans cette situation étrange où le gouvernement de M. Maduro laisse faire. Alors est-ce qu'il a des difficultés à maîtriser l'appareil du parti qui est au pouvoir? Est-ce qu'il est complice de cette opération? On s'inquiète de la situation, c'est-à-dire il se serait débarrassé de M. Guaido, mais en fait il se serait constitué une fausse opposition de gauche sous la forme d'un faux parti communiste vénézuélien qui reprendrait les intérêts des États-Unis sur le pays. Vous voyez, comme tout ça est compliqué, tordu, pervers, mais c'est assez dans le mode de fonctionnement du Parti démocrate aux États-Unis. C'est-à-dire, faire une politique de droite par des partis de gauche, c'est beaucoup plus joli sur le papier. C'est beaucoup plus joli dans les journaux et tout. Comme faire une politique militariste par une ministre allemande écologiste qui est farouchement belliciste, c'est beaucoup plus commode que de mettre un militant d'extrême droite dont évidemment on sait qu'il est militariste et belliciste. Mais quand c'est une écologiste qui est belliciste, quand c'est un socialiste qui est belliciste, effectivement, l'électeur de gauche, sincère, benoît, gentil, dit « Ah mais quand même, si mes favoris, les gens pour qui je vote volontairement ou par sympathie, socialiste, écologique, comme ils sont, ben, dommage, mais je vais quand même continuer à voter pour eux. » C'est tout bénéfice pour l'impérialisme. Donc bien mettre ça dans sa tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un écologiste bien manipulé par les États-Unis devient un chef de guerre très dangereux. Ça me ramène indirectement à la Yougoslavie. Il faut savoir que la première tentative de dévoiement d'un écologiste pour le transformer en animal de guerre, ça a eu lieu en Allemagne, chez les Verts allemands, et ça a eu lieu dans la personne d'un monsieur qui a été ministre des Affaires étrangères de Helmut Kohl, qui s'appelait Joschka Fischer. Joschka Fischer arrive à un moment où les Grünen, comme on dit, les Grünen allemands, sont très puissants électoralement, et où ils se scindent en deux courants. Un courant qu'on appelait les realos, donc les réalistes, et les fondistes, les fondamentalistes. Ceux qui disent l'écologie, c'est une discipline à soi particulière qui impose de ne pas avoir des compromis avec l'appareil du capital, etc. Bon. Et en fait, les Realos gagnent très très largement, et donc il y a scission dans le parti des Verts qui avait de très très gros scores électoraux et qui faisait de très très gros progrès. Et donc les Realos disent non, nous on est un parti du pouvoir, on est un parti qui prend ses responsabilités, et les responsabilités, alors il y en a, alors ils peuvent évidemment avoir un discours vert sur un certain nombre de sujets, mais quand ils sont les plus bellicistes d'un gouvernement allemand, on a une question à se poser, car c'est une question fondamentale sur laquelle on peut revenir à propos de la question ukrainienne. Est-ce que la guerre peut être verte? C'est la bonne question. Est-ce que le fait d'avoir des avions qui volent à Mach plus 2, qui consomment des centaines de litres de carburant à la minute, des chars d'assaut pareils, etc., est-ce que ça, c'est vraiment de l'économie d'énergie? Est-ce que c'est vraiment vert? Est-ce que laisser des déchets partout, des morceaux de canons, des morceaux d'obus, etc., regardez ce qu'était le champ de... Le Verdun. Verdun, ça a été très longtemps un endroit tout à fait impraticable. Il y a tellement d'obus non éclatés, de ferraille et tout, que c'était plus impossible. Enfin, que la zone de Verdun était impropre à la culture. Donc, ça a duré des décennies. Donc, ne pas réfléchir à la guerre en tant que polluant, alors polluant mental, évidemment, mais sur polluant matériel réel, c'est passer complètement à côté du phénomène. Hein. Alors, un écologiste sincère devrait dire, effectivement, moins il y a d'avions de chasse, moins il y a de missiles, etc., mieux la planète se porte. Et sous-entendu, mieux les humains se portent dessous. Bon, là, on aurait une espèce de cohérence. Mais quand, comme Madame la ministre allemande des Affaires étrangères et comme Joschka Fischer à l'époque disent « Nous, il faut qu'on fasse la guerre parce qu'on est pro-occidentaux, des vrais de vrais », ils sont complètement à côté. On devrait les exclure du mouvement écologiste. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon. Je mets ça en débat pour une prochaine élection, une prochaine émission et un prochain colloque. Il pourrait y en avoir un, mais il n'y en a pas parce que les écologistes français, ELV, sont moins va-t-en-guerre que les écologistes allemands, mais quand même, par rapport à la question ukrainienne ou d'autres, ils sont à peu près sur la même ligne, donc il n'y a pas d'inquiétude. Ils sont beaucoup plus proches d'un socialiste classique qu'autre chose. Bon, c'est donc une espèce de nouvelle génération de sociodémocrates complices du système, qui se sont peints en vert. Hein. C'est le greenwashing, mais à l'échelle d'un parti, hein, et pour la télévision. Mais en fait, dans leur tête, ils ne sont pas écolos du tout, hein, puisqu'en fait, ils soutiennent les opérations belliqueuses. Ça méritait d'être dit, quand même. Roselyne approuve. Oui, parce qu'autrement, on nous embrouille les affaires. Ils sont écolos, c'est des braves gens. Mais non, ce n'est pas des braves gens, parce qu'un monsieur qui fait la guerre au nom de l'écologie, c'est un monsieur qui n'a pas compris. Il tient un discours qui est incohérent. Hein. Et donc, s'il le fait, alors, c'est peut-être parce qu'il est vendu, c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris, qu'il est pas... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est très... préoccupant, puisque c'est un dévoiement d'une idée qui est une idée centrale dans le futur de l'humanité. C'est-à-dire que si on arrive à une humanité plus apaisée, comme la souhaite la politique chinoise, ça veut dire qu'on se fait le moins possible la guerre. Et se faire le moins possible la guerre, c'est ne rien casser, laisser les maisons pour les gens, pour qu'ils puissent y habiter, hein, ne pas tout raser et ne pas laisser dans la nature de la poudre, des obus et consommer des millions de mètres cubes de pétrole pour faire marcher les avions et les cars. Et bon, ça, apparemment, il n'y a pas de discipline dans les écoles de guerre sur qu'est-ce que nous consommons. Et c'est ça le paradoxe, enfin, l'horreur de l'état de guerre en même temps. C'est qu'à partir du moment où l'état de guerre est installé, on ne compte plus les tonnes de carburant, on ne compte plus les tonnes de poudre, on ne compte plus rien, quitte après à se retrouver en faillite à la fin. Mais à ce moment-là, toutes les consommations, toutes les surconsommations sont permises et même sont favorisées. Gaspiller. La guerre en tant que gaspillage maximum, gaspillage incontrôlé, est un phénomène qui pose question pour la suite de l'aventure humaine. Parce que quand c'était 300 chevaliers du temps d'Azincourt et de Crécy qui se tuaient les uns les autres, bon, ça fait 300 morts d'un côté et de l'autre, des chevaux aussi, ça s'arrêtait là. Pollution nulle quasiment. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Bon. Et il n'y a pas besoin de guerre nucléaire là, bien avant. Toute forme de guerre aujourd'hui, avec les armements utilisés, l'aviation de chasse, les blindés, tous les véhicules nécessaires à toutes les activités militaires au sol, sont d'énormes consommateurs, sans limite. Dès l'instant où vous avez appuyé sur le bouton guerre, il n'y a plus de limite écologique. Donc si vous êtes écologiste dans un gouvernement qui fait ça, vous êtes trompé d'adresse. Vous n'avez rien compris à votre propre discours. Bon. Laissons-les à leurs contradictions, mais soulignons-les à l'occasion. Voilà, je voulais vous parler ça parce que je pense que ça méritait d'être dit et expliqué. Qu'est-ce qui va se passer d'intéressant dans les jours qui viennent ? Non. Ah oui, un mot quand même, je ne vous ai pas parlé de la manifestation de ce matin, donc qui était, je crois, la 14e manifestation contre le projet de réforme des retraites. Je maintiens le mot de projet de réforme des retraites, puisque je rappelle quand même que l'Assemblée nationale n'a pas voté ce texte, mais qu'elle a été trompée sur la marchandise avec un vote de confiance par rapport au gouvernement. Bon. Ça, c'est l'aspect des choses. Mais que l'opposition reste ferme, qu'à la 14e manifestation, il y avait moins de manifestants à Marseille, c'est ce qu'on a vu tous les deux de nos yeux, mais toutes les confédérations syndicales étaient là, donc ça veut dire que l'unité syndicale était maintenue, ce qui est positif, ce qui veut dire que la revendication de retrait de la réforme reste. Alors qui le fera, quand et comment, je ne sais pas, mais la revendication demeure et elle est justifiée. Elle est d'autant plus justifiée, et ça me ramène à l'autre sujet de la semaine en politique intérieure, que demain, l'Assemblée nationale, en première lecture, va voter, j'allais dire comme un seul homme. Il y aura peut-être ici et là des abstentions, quelques réserves et tout, mais il n'y a pas de campagne des formations de gauche, pour faire simple, que ce soit la NUPES ou la France insoumise, pour dire non à la loi de programmation militaire. On n'entend pas ce bruit-là, on n'entend pas ce son-là. Il y aura des amendements peut-être, des observations sur tel ou tel aspect du dossier. Il n'y aura pas d'opposition frontale à la loi de programmation militaire. C'est dramatique pour les forces de gauche s'il en reste en France. C'est dramatique en ce sens que quand un président, après avoir augmenté déjà les dépenses militaires pendant son premier mandat, annonce qu'il va augmenter de 40% les dépenses militaires au cours de son second et que les partis politiques ne réagissent pas à la hauteur du défi et à la hauteur du mal qui se prépare, on a une inquiétude sur l'état réel des forces de gauche si elles le sont encore. Car qui parlera ? Personne. Hein. Donc, ici et là, on a des opposants, le mouvement de la paix, etc. Mais il n'y a pas de force politique qui ait pris position contre, clairement, de force parlementaire, contre la loi de programmation militaire, qui demain sera votée, évidemment, en première lecture. Bah, bien sûr, le groupe, tous les groupes autour de la Macronie, les Républicains quasi à coup sûr, et le Rassemblement national aussi. Peut-être quelques abstentions à gauche, mais sans beaucoup de bruit. Et c'est ça qui est très très inquiétant, c'est-à-dire que l'installation de la France par M. Emmanuel Macron dans le rôle de va-t-en-guerre permanent va être acquis par cette espèce de faiblesse, de ramollissement du Parlement et surtout ramollissement de la gauche. Que les Républicains ne se ramollissent pas, ben, ils sont Républicains, c'est pas une surprise. Que le RN ne se ramollisse pas, ben, non, normal. Mais que la France insoumise, la NUPES, globalement, se ramollissent sur des questions comme ça, ça veut dire qu'ils ne servent plus à grand-chose dans le débat sur l'avenir du pays, car il s'agit bien de l'avenir du pays. Un pays qui augmente à ce niveau-là ses projets, ses budgets militaires, est un pays qui s'inscrit dans un projet de guerre. Il veut avoir les moyens de la faire. C'est bien ça. Et Macron ne tient pas un autre discours. Il ne trompe pas sur la marchandise. Nous aurons des guerres de haute intensité. C'est ce qu'il dit à longueur d'année dans tous les séminaires qu'il tient avec les militaires. Nous aurons des guerres de haute intensité. Alors, je m'arrête sur ce point qui est extrêmement important. Avec qui ? Avec qui avez-vous le projet d'avoir des guerres de haute intensité ? Alors là, on cherche, et je livre la question à tous les citoyens qui m'écoutent. C'est qui le pays qui menace la France ? Et puis le pays qui va envoyer des chars dans les rues de Marseille ou de Paris demain ? Je cherche, je vois pas. Je vois pas. Alors, bien sûr, on va nous dire « la Russie ». Alors là je ris, et je vous dis « réfléchissez deux secondes, réfléchissez deux secondes ». La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. C'est 30 fois la France. Ils ont tout dessus, des terres agricoles, du gaz, du pétrole, des minerais, des étendues vierges. ils vont nous prendre, mais ils n'en ont même pas envie. L'idée ne les a jamais traversés. C'est d'un ridicule achevé. Alors arrêtez de délirer, de faire des insomnies sur Vladimir Poutine et des cauchemars. Ils n'ont pas besoin de vous et ils ne vont pas s'embarquer dans une opération qui ne les intéresse pas du tout. Ils défendent leurs intérêts, ce qui est le rôle de tout État. Point à la ligne, c'est tout. Et qui d'autre? Bon, pas les États-Unis, ils sont des amis. Mais alors, mais qui va envahir la France? La Chine? Ah, les Chinois. Aïe, 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 les Chinois. Alors, bon, est-ce qu'ils ont déjà beaucoup envahi de pays européens? Bon, non, on n'a pas de ça dans l'histoire. Alors, la Chine, c'est vrai, s'est battue à ses frontières pour pas que l'Empire soit attaqué, que ce soit par les Mongols, par les Mandchous ou par quelques autres, mais c'est pas aller plus loin que ça. Le contrôle des frontières, c'était quand même important, puisque la Chine, telle qu'elle est, elle est entourée de pays très très particuliers dans leur géographie, soit la steppe mongole, soit les montagnes tibétaines, enfin des zones géographiques excessives, très particulières, avec presque personne dedans. Mais c'était tellement particulier, et c'était la Chine en tant que telle, donc l'empire autour des deux grands fleuves, donc le Huanghe et le Yangtze, c'était une zone où il y avait de la culture, des possibilités de produire du riz, du blé, etc. Et c'était très très attirant pour le Mongol qui, dans la steppe, passait la vie à cheval, à chasser et à se promener avec sa yourte. C'était très tentant aussi pour le Tibétain ou le Ouïghour qui habitait dans des zones difficiles ou semi-désertiques, comme dans le cas du Turkménistan chinois. Mais pour les Chinois, c'était simplement les gens des marges qui étaient attirés par la richesse chinoise, par la culture chinoise et par la capacité du territoire chinois à produire de la nourriture et au-delà, et une civilisation. Et donc, ce n'est pas tout à fait par hasard s'il y a eu en Chine une dynastie mongole et une dynastie manchoue. C'est-à-dire que les Mongols, avec leurs chevaux, sont venus prendre le pouvoir à Pékin et puis ils se sont sinisés. Ils ont trouvé qu'ils étaient tellement bien là, en tant que patrons de la Chine, qu'ils ont fait une dynastie mongole. Hein. Mais ils ont adopté toute la culture chinoise. Ils sont... donc pas de problème, les Mandchous ont fait pareil, c'était la dernière dynastie, bon, mais ça s'est arrêté là, c'est-à-dire c'était pas possible de toute façon physiquement que des Mongols prennent le pouvoir en Chine, parce que le rapport de nombre était tel que 1 contre 100 ou 1 contre 1000, on prend pas le pouvoir, hein. On fait à la rigueur un coup, mais ça va pas plus loin que ça. Et donc en fait la Chine n'a pas débordé de ses limites géographiques. C'est l'autre idée. Et après, on cherche les Allemands, les Italiens. Bon, donc en fait, moi, je livre la question à la population française. Est-ce qu'il y a un ennemi? Et s'il y a un ennemi, il a des mauvaises intentions. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Et à ce moment-là, on en discute et on prend les mesures adéquates. Là, le pouvoir est responsable politiquement. Il dit effectivement, il y a une menace et je m'organise par rapport à cette menace. Mais pour l'instant, la menace, elle est fabriquée. Elle est dans nos têtes. On a peur. Hein, et donc le sentiment de peur est un mauvais conseiller, hein, puisqu'il permet d'augmenter le budget de la défense nationale de 40%. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas simplement l'arme atomique, c'est toutes les armes, hein, puisque l'arme atomique, c'est, dans le projet de LPM, c'est 12 ou 14% du budget total. C'est-à-dire que c'est tout le reste qui va augmenter. Les chars, la cyberdéfense, etc., tout va augmenter. Et puis surtout, il y a un aspect qui touche la population et l'idéologie, c'est-à-dire il faut donner à la jeunesse française l'idée qu'on est dans un pays menacé, pour l'amener à être bien sage et à bien obéir au chef. Hein? Alors, hein? Un chef et une nation qui suit. Ça vous dit quelque chose? Un chef et une nation qui suit? Moi, ça me dit quelque chose. Je suis né trop tôt. C'est bon, ça. Voilà. Alors, j'en finis quand même. Je vais parler de la Mongolie, puisque bah, c'est trop drôle. Monsieur Macron... Après avoir été donc à Hiroshima au sommet du G7, ou en parlant même deux mots sur le sommet du G7, vous savez que M. Macron avait pris dans son avion, comme il avait pris Mme von der Leyen pour aller à Pékin, il avait pris M. Zelensky pour aller à Hiroshima. Bon. Et pour lui donner de l'importance, et M. Zelensky devait rencontrer tous les puissants du monde, le G7, rien que ça. Bon, ça s'est pas trop bien passé. D'une part, M. Zelensky a rencontré le Premier ministre indien qui l'a battu froid et qui l'a renvoyé un peu à ses études. Et puis ensuite, il a posé un lapin au président brésilien Lula, qu'il a très très mal pris. Il dit, on me donne un rendez-vous et on ne vient pas. Qu'est-ce que c'est que ce malotru? Et encore malotru, c'est gentil. Bon. Et donc, ça, je rappelle ça, que c'est quand même à dire. Et donc M. Macron est allé ensuite en Mongolie, où il a été reçu donc par le président de la République mongole, et où ils ont parlé de quoi ? Alors il n'y a pas grand-chose à dire avec la Mongolie, si ce n'est qu'on est amis, qu'on s'entend bien, qu'on fera, on se fera pas de misère les uns les autres, mais surtout, surtout la Mongolie vend de l'uranium, plutôt extrait de l'uranium. Et donc, effectivement, dans la recherche de l'uranium qui fait partie des soucis de M. Macron pour faire alimenter à la fois les centrales et à la fois l'arme atomique, il faut chercher de l'uranium et surtout éviter d'être entre les mains du Niger comme seul producteur qui pose problème, puisque vous savez que... Alors, situation politique au Niger. Vous savez que les troupes de Barkhane, qui ne s'appelaient plus Barkhane, qui ont quitté le Mali, sont allées depuis au Niger. Donc, il y a encore des troupes françaises au Niger. Mais il faut savoir qu'elles ne circulent pas sous le drapeau français. Elles sont associées à des unités nigériennes, et donc l'armée française qui est encore au Niger rase les murs. Et on lui a dit de se tenir sage et discrète. C'est ça la réalité. Donc l'uranium du Niger, c'est bien, on a des habitudes, les circuits sont bien rodés, mais si on peut trouver de l'uranium ailleurs, on en trouve ailleurs. On en achète d'ailleurs en Australie, on en achète au Kazakhstan. Et si on disait à la petite Mongolie et à ses 6 millions d'habitants, la France, dans toute sa grandeur, vous achète une bonne partie de votre uranium, ils seraient très très contents, ça leur ferait une ressource importante. Bon. On va voir ce qui va se passer. Il est certain que Orano, donc, qui a suivi donc Areva, qui est l'avatar d'Areva actuel, et a déjà commencé des recherches et des installations pilotes pour extraire l'uranium mongol. Ceci explique l'intérêt souligné de M. Macron pour cette nouvelle alliée qui s'appelle la Mongolie. Nouvel allié un peu particulier, donc qui veut... Alors, imaginez la Mongolie actuelle, qui d'une part est un régime... Alors, totalement transformé, c'est-à-dire que aujourd'hui la majeure partie de la population réside dans la capitale, est urbanisée, la corruption du gouvernement est à un niveau assez élevé, et donc on a affaire à un régime, j'allais dire normal, mais 6 millions d'habitants, un très très grand pays, et donc on peut se faire un ami avec la Mongolie, qui se méfie de la Chine, parce que quand vous avez 6 millions d'habitants et que vous êtes adossé à un pays de 1,4 milliard, vous avez toujours peur d'être un peu envahi. Et d'ailleurs, il suffit d'aller au marché à Ulaanbaatar pour voir qu'il y a beaucoup de commerçants chinois qui sont là, pourquoi n'y seraient-ils pas ? Voilà pour la Mongolie. Dernière chose que je voulais évoquer, ça mérite d'être dit quand même. Ça mérite d'être dit quand même parce que, une minute, juste pour dire que l'Organisation mondiale de la santé a tiré le bilan de l'épisode de l'épidémie de Covid en annonçant que l'épidémie était terminée. Il a été rappelé, donc ça c'est les chiffres officiels de l'OMS, que cette maladie avait touché 760 millions de personnes et qu'il y avait eu 7 millions de décès. Alors je fais le rapport, entre 760 millions de malades et 7 millions de morts, c'est 1% de morts. C'est-à-dire le Covid n'était pas une maladie bien bien grave, 1% de décès sur 700 millions de malades. Très curieusement, après cette annonce de l'OMS disant que l'épidémie était terminée, Pfizer vient de fournir à nouveau, à la demande de l'Union européenne, des vaccins pour la suite des événements. Alors là, ça commence un peu à remuer, c'est bien gentil. Déjà, ils nous ont vendu un vaccin alors qu'il y en avait d'autres, mais Pfizer a eu le monopole, corruption de Mme von der Leyen et de la Commission européenne. Et puis en plus, maintenant, pourquoi acheter à nouveau des vaccins Pfizer dont l'efficacité est contestée à une personne qui n'est pas très honnête et qui fait plutôt partie des truands du grand capital, et continuer à acheter un médicament dont probablement on n'aura pas besoin. C'est-à-dire que M. Pfizer, le patron de Pfizer, vend ce qu'il veut à l'Union européenne dès qu'il le veut et que personne ne trouve ça à critiquer. Alors je dis, si vous cherchez des vaccins, vous en trouverez ailleurs. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins dangereux. Je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais M. Pfizer a bénéficié d'un monopole et il veut continuer à ce que ça dure parce que ça lui remplit ses caisses. Le capitalisme et la santé, ce sont deux disciplines antagoniques. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine, mardi prochain. Merci Roselyne.